étions arrivés la dernière fois à voir, créé appartient-il en propre à l'une des personnes divines? Je crois que c'est ça, l'article 6. Question délicate, difficile, surtout qu'il y a des spécialistes de l'appropriation, alors il faudra faire attention. Je leur demanderai de dire un peu ce que c'est que l'appropriation, et puis on verra si ça colle avec ce que dit saint Thomas ici. Donc, créer relève de Dieu en tant qu'il est l'ipsum esse subsistans. Tout a été basé là-dessus, hein, depuis le début, puisque c'est laisser participer qui est de fait l'effet propre, la ratio formalis sous laquelle Dieu crée. Dieu regarde, comme créateur, Dieu regarde tout sous le point de vue de l'essai. Alors, dès que vous quittez l'essai, vous n'êtes plus dans l'orientation directe de la création. Alors, créer appartient-il en propre à l'une des personnes divines? Je ne regarde pas les objections, elles sont faciles à comprendre. D'après Denis, toutes choses créées sont communes à toute la divinité. Créer, c'est proprement causer ou produire l'être des choses. Donc c'est toujours causare esse rerum. C'est une causalité qui porte sur l'essai. Et comme tout agent opère à sa ressemblance, le principe de l'action peut se juger à son effet, car c'est le feu qui engendre le feu. C'est pourquoi créer appartient à Dieu en raison de son être. Creare convenit Deo secundum esse suum, puisque c'est causare esse. Donc c'est l'ipsum esse subsistens. C'est pourquoi créer appartient à Dieu en raison de son être, et son être est identique à son essence, laquelle à son tour est commune aux trois personnes divines. On voit donc que créer n'est pas propre à l'une des personnes, mais commune à toute la Trinité. Très simple à comprendre. Dès que vous avez compris que que créer, c'est une causalité qui porte sur l'essai, donc ça se rattache directement à l'ipsum esse subsistens, et que l'ipsum esse subsistens est un aux trois personnes divines, puisque c'est la simplicité même de Dieu. Cependant, les diverses personnes, en raison de leur procession même, ont une causalité touchant la création des choses. Alors c'est ça qui est très délicat et qui est quand même très important à voir. Divine personae, secundum rationem sui processionis. Donc en raison de la raison, selon les diverses personnes, selon la raison de leur procession, ont une causalité par rapport à la création des choses. En effet, comme on l'a montré plus haut, à propos de la science et de la volonté divine, Dieu est cause des choses par son intelligence, par sa volonté, comme l'artisan est cause de son œuvre. Donc l'analogie de l'artisan, c'est toujours cette analogie que saint Thomas se sert, qui est toujours très importante à comprendre, qui est très très délicate. Hein. C'est une chose qui serait intéressante à voir, la différence, la manière dont les Platons, dont les stoïciens se servent de l'analogie de l'artisan et la manière dont saint Thomas s'en sert. Il y a là quelque chose d'important à saisir. Hein. Parce que c'est la même analogie qu'on retrouve des deux côtés, mais selon deux analogies différentes. L'analogie platonicienne, le Tibet, c'est l'analogie de l'artisan. Et les stoïciens, c'est l'analogie de l'artisan. Vous savez, la fameuse question, quand on dit « je vois une maison », quand on voit un salon bien ordonné, avec les fauteuils qui sont bien mis, n'est-ce pas, on se dit « il y a quelqu'un qui est passé par là ». Il y a une intelligence qui a ordonné ça. Dans la créature, je vois un ordre parmi toutes les choses, donc il y a une intelligence artistique. Hein. Ça, c'est le raisonnement des stoïciens. Ce n'est pas le raisonnement de saint Thomas. Alors, c'est intéressant à bien préciser. Donc, Dieu est cause des choses par son intelligence et par sa volonté, comme l'artisan est cause de son œuvre. Or, l'artisan opère par le verbe mental qu'il conçoit et par l'amour que sa volonté porte à quelque objet auquel il s'applique. De la même manière, donc, Dieu le Père a réalisé la créature par son Verbe qui est le Fils, par son amour qui est le Saint-Esprit. D'après cela, les processions des personnes sont les raisons de la production des créatures, pour autant qu'elles incluent les attributs essentiels qui sont la science et le vouloir. Comme c'est difficile à comprendre, hein, pour tous ceux qui sont un peu sensibilisés au cours de la théologie, au cours de saint Thomas sur la très sainte Trinité, comme c'est difficile à comprendre. Saint Thomas ne cesse de distinguer les attributs essentiels, donc, ce qu'on peut attribuer à Dieu de façon essentielle, c'est-à-dire l'intelligence et la volonté. Attribué à Dieu dans la simplicité de Dieu. C'est un. Et saint Thomas reconnaît que, de fait, grâce à la foi, je peux dire qu'il y a une procession qui s'enracine dans l'intelligence. Mais ce n'est pas l'aspect essentiel, c'est l'aspect particulier. Grâce à la foi, je peux dire que l'intelligence de Dieu est source du Verbe. Ce n'est pas l'intelligence de Dieu en tant qu'elle est une avec son essai, parce que le Verbe aussi a l'intelligence. Donc, l'intelligence du Verbe devrait produire un fruit. Et ainsi de suite. Vous voyez la très grosse difficulté. Donc, il faut bien distinguer ce qui est essentiel et un en Dieu, et ce qui est au niveau des processions. Ce qui est au niveau des processions, ce n'est pas ce qui est essentiel, puisque c'est propre à chaque personne. La procession, selon l'intelligence, procède du Père. C'est propre au Père. C'est pas propre au Fils. L'intelligence du Fils est une avec le Père, et l'intelligence du Fils n'est pas source d'un autre Verbe, qui serait le Verbe du Verbe. Oui, je ne peux pas. Donc, voyez bien, hein, comme c'est délicat, le raisonnement de saint Thomas ici. Je crois qu'il faut bien le saisir. Hein. Divine, je vous le lis en latin, parce que c'est plus clair. Divine personae, secundum rationem sue processionis habent causalitatem respectu creationis rerum. Ut enim suprostensum est, cum de Deo scientia et voluntate adgeretur, Deus est causa rerum per suum intellectum et voluntatem, sicut artifex rerum artificiatarum, artifex autem per verbum in intellectu conceptum, et per amorem sue voluntatis, ad aliquid relatum operatur, unde, et Deus pater operatus est creaturam, per suum verbum, donc Dieu le Père, operatus est creaturam, opère la créature par son Verbe, qui est le Fils. Et per suum amorem qui est spiritum sanctus, donc il opera tous es creaturam. Elle est créée, elle est opérée, la créature est opérée du Père par son Verbe et par l'amour. Et secundum hoc processiones personarum sunt rationes, les processions des personnes sont les raisons rationes productionis creaturarum. Alors, comprenons bien, elles sont les rationes quantum includunt essentialia attributa, puissant scientia et voluntas. Donc, les processions divines sont les raisons des productions des créatures, de la production des créatures, en tant que ces processions incluent les attributs essentiels. Alors tout est sauvé dans le « en tant que ». Alors le « en tant que » ça va. Mais vous voyez, si je coupais juste avant, ce serait... Je ne verrais plus du tout. Il y aurait la confusion que saint Thomas, pourtant, maintient toujours dans son traité sur la très sainte Trinité, ces deux aspects. L'intelligence prise essentiellement, l'intelligence prise en tant que source du Verbe. Donc elle n'est pas prise de la même manière, si vous voulez. D'un côté, c'est la connaissance que j'ai de l'intelligence de Dieu en tant qu'elle ne fait qu'un avec Dieu. De l'autre côté, c'est à travers la foi que me dit il y a des processions divines et j'essaie de comprendre ces processions selon l'intelligence et selon l'amour. Ici, saint Thomas reprend le problème autrement, par le point de vue des processions, et par le point de vue des processions divines, il dit que les processions divines sont les rationes, sont les raisons des créatures en tant que. J'espère que vous voyez la difficulté du problème. Alors, le problème se prend de cette façon-là, et je crois que c'est comme ça qu'on doit le comprendre, c'est justement ce « in quantum includunt ». Donc les rationes, les processions sont les raisons de la production des créatures en tant qu'elles incluent les attributs essentiels. Les attributs essentiels, intelligence et volonté, font partie essentielle de l'acte créateur de Dieu. L'acte créateur de Dieu ne peut pas se séparer de sa sagesse. L'acte créateur de Dieu est un acte de sagesse. Si c'est un acte de sagesse, c'est un acte d'intelligence et d'amour. Mais d'intelligence et d'amour, en tant que son intelligence et son amour, ne font qu'un avec l'ipsum esse subsistens. Donc, fondamentalement, toute l'œuvre de la création est lumière et amour. Fondamentalement, toute l'œuvre de la création est lumière et amour. Or, comme lumière et amour sont en Dieu source radicale des processions, on peut dire que les processions sont les races, sont les raisons de la création en tant qu'elles incluent les attributs essentiels. C'est assez beau comme vision. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est très intéressant quand même comme perspective de saint Thomas. C'est très audacieux. C'est très audacieux. Vous voyez, le souci de saint Thomas dans son traité de la Trinité, c'est de bien distinguer. Ici, son souci, c'est de l'unir. Alors, je pourrais matériellement opposer. Et si je regarde bien la perspective de saint Thomas, c'est pas contradictoire. C'est là qu'on voit la souplesse des raisonnements de saint Thomas. Et c'est là qu'on voit la souplesse du traité de la très sainte Trinité présent dans la création. Parce que Dieu ne peut pas dire « je crée en tant que je suis un ». Non. Il crée en tant qu'il est Dieu. Or, Dieu est trois. Donc il crée nécessairement en tant qu'il est trois. Mais ce n'est pas sous la formalité de trois, mais sous la formalité de un qu'il crée. Alors vous avez hein, les deux aspects, l'aspect formel, formalité, mais bien obligé, on ne peut pas faire autrement quand on parle de la très sainte Trinité. Et puis on l'aspect de la réalité. La réalité existentielle. La réalité existentielle. La réalité existentielle ou existentiale, parce que dans le cas, c'est vraiment une réalité existentielle. C'est la réalité existentielle des trois personnes divines. Dieu est trois dans son être. Donc s'il crée, il crée nécessairement dans son unité, formalité, et réalité, la réalité existentielle des trois. Alors, ce qui déroute tout, c'est que saint Thomas, quand il parle des processions, il dit « rationes ». Le « rationes » est toujours formel. Alors il est obligé de dire rationnel, les processions sont les raisons, les rationnels, la raison. Qui dit raison dit quelque chose de formel. C'est pas pris matérialitaire, c'est pris formellement. Les processions sont les raisons des produits de la création, des créations. Alors il ajoute toujours in quantum, en tant qu'elles impliquent les attributs essentiels. Intelligence et volonté. Mais c'est une très bonne gymnastique. C'est remarquable. Hein, c'est là où on voit la souplesse, si vous voulez, du théologien, qui connaît parfaitement son métier, et qui jongle. Hein. C'est sûr, alors c'est pas un jeu, c'est une précision d'essayer de comprendre que je ne peux pas séparer la très sainte Trinité de l'œuvre de la création. Mais cependant, je dois dire que Dieu, en tant qu'il crée, il crée en tant qu'il est ipsum et ses subsistances. Et donc, nécessairement, il crée dans son unité. Mais comme son unité implique l'intelligence et la volonté, et que l'intelligence et la volonté sont, de fait, impliquées dans les processions, puisque je ne peux pas saisir les processions divines sans faire appel à l'intelligence et la volonté, processions selon intelligence, processions selon la volonté, je dois donc dire que les processions sont les raisons des productions de la créature. C'est assez bien mené. Hein. Il faut y réfléchir là-dessus. On va voir les objections, puis je vous demanderai si vous avez des questions. Parce que ça, c'est quand même très important. Hein. C'est une très belle question, parce qu'elle nous, vous voyez. Saint Thomas a fait l'analyse, autant qu'on peut faire au point de vue théologique, de l'unité de Dieu. Simplicité. Il fait ensuite le traité des trois personnes, la distinction des trois personnes. Dans le traité de l'unité, la méthode de saint Thomas, c'est de commencer par ce qui est, puis la vie. Dans le traité des trois personnes, c'est la vie, les opérations du Père, puis des opérations vitales, on reprend ce qui est. Le traité de la très sainte Trinité a un ordre inverse du traité de l'unité de la simplicité de Dieu. Je crois que vous saisissez bien ça. Ça, c'est très important à saisir. Enfin, une méthode de saint Thomas. Hein. C'est d'abord ce qui est simplicité, perfection, infini, puis la vie, les opérations vitales. Dans la très sainte Trinité, c'est les opérations vitales, puis on ramène à ce qui est. Et ce qui est, c'est uniquement le traité de la relation. C'est par la relation que je peux intégrer dans la distinction des opérations vitales l'être. Seulement la relation, rien d'autre. Lorsqu'il s'agit de la création, il vient en troisième lieu. 1, 2, 3. Ponctue les trois grands traités de la prima pars. Hein. Donc, quand il s'agit de la création, on regarde d'abord l'ipsum et ses subsistances. Donc la simplicité. Donc je fais appel à l'article premier, la simplicité. Tout est basé là-dessus, hein, nous l'avons vu. Tout est basé sur le point de vue de laisser participer par rapport à l'ipsum et ses subsistances. Subitement, dans la création, nous essayons de comprendre comment va s'introduire les opérations vitales. Les opérations vitales de Dieu, l'intelligence et la volonté. Il est évident que Dieu ne crée pas sans lumière et sans amour, puisqu'il crée par la sagesse. Et dès que l'intelligence et la volonté sont regardées, les processions sont regardées. Vous voyez, c'est une notion, si j'ose dire. Hein. Et les opérations vitales, vues de cette manière, sont ramenées à la simplicité. C'est très très joli comme manière de penser. Vous voyez, la création fait d'une certaine manière, comprenez bien, la création fait d'une certaine manière la synthèse des deux. C'est Dieu dans sa réalité.
Dieu dans son unité, mais Dieu dans sa unité, c'est le Dieu trois, c'est le Dieu des trois personnes divines. Mais en tant que créateur, c'est la simplicité. Et cependant, il ne peut pas créer sans qu'il soit trois. Alors comment interviennent les trois dans l'œuvre créatrice de Dieu? Pas une coopération, hein? Le Père demande au Fils s'il est bien d'accord, et le Fils demande au Père s'il est bien d'accord. Il y a un conseil au sommet, n'est-ce pas, des trois, pour savoir s'il faut faire une œuvre de la création qui soit une œuvre unique pour manifester leur unité, ou une œuvre trine pour manifester qu'ils sont trois. Alors ils ont trouvé le moyen merveilleux de faire l'unité, c'est la création, et la surnature, participation à la nature divine, alors traiter la grâce qui viendra après. Traiter la grâce. Alors lui fait immédiatement appel aux trois personnes. Il fait immédiatement appel aux trois personnes, et ensuite on voit le point de vue entitatif de la grâce. Et vie-être. Saint Thomas jongle constamment entre vie et être, en tant que théologien, dans sa somme théologique. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est très très important à saisir ça. Je crois que tant qu'on n'a pas saisi ça, on ne comprend pas la technique de Saint Thomas. C'est vie et être. Hein. Être vie, vie-être, être vie, vie-être. Dans la grâce, on regarde d'abord le point de vue opération vitale, cette forme de grâce, puis l'aspect être, ce qui est habitus entitatif. Toujours la confusion entre les deux. Hein. L'habitus entitatif, la grâce est un habitus entitatif, mais ce n'est pas ça le formel de la grâce. Le formel de la grâce, c'est de poser des actes qui sont au-delà du point de vue proprement entitatif. C'est ça ce qu'il y a de plus. C'est la vie divine qui nous est donnée. Alors, si on ne voit plus que la vie, sans voir l'être, on ne voit pas l'enracinement de la grâce. Si on ne voit plus que l'être, sans voir le point de vue de la vie, on matérialise tout. Alors, vous voyez, c'est ça qui me semble intéressant, si on veut un peu entrer dans la structure de pensée de saint Thomas. Hein? Vie, être, les analogies, hein? Ce sont les analogies vie et être. Alors, voyons maintenant comment saint Thomas va répondre aux objections. Premièrement, une raison qui le ferait croire est celle-ci. Donc, c'est créé appartient en propre à l'une des personnes divines. Ce qui est premier est la cause du subséquent, et le parfait cause de la parfaite. Or, la procession des divines personnes est première par rapport à la procession de la création, de la créature. Elle est plus parfaite, car une personne divine procède de son principe en parfaite similitude. La créature représente imparfaitement le sien. Donc, les processions des divines personnes sont la cause de la procession des choses, et ainsi, créer appartient à la personne. Ça, c'est très joli. Hein? Très, très joli de voir ça. On fait un ordre entre les deux. Hein? Réponse de saint Thomas. Le premier argument est donc tout résolu, puisque nous accordons que les processions des divines personnes sont cause de la création dans le sens qu'il était dit. Alors, vous avez remarqué, causa creationis. Et ici, on y dit ratio. Ça va encore plus loin. Causa. Alors là, difficile à comprendre. Hein? Les processions divines, des personnes divines, sont cause de la création. Ça, très belle dissertation à faire là-dessus. C'est de saint Thomas. Hein? Les processions divines, des personnes divines, les processions des personnes divines sont cause de la création. Hein, comment? Je vous laisse à comprendre, c'est ça que saint Thomas, donc c'est pas tête, c'est une évidence pour saint Thomas. Hein? Les personnes divines sont, les processions divines sont cause de la création. Oui, sont cause en ce sens que les processions divines, impliquent intelligence et volonté, et que intelligence et volonté sont impliquées dans la création selon la sagesse. Oui, mais c'est du raccourci. C'est du raccourci. C'est un télescopage. Parce que vous sortiriez cette phrase-là sans citer que c'est de saint Thomas, un bon thomiste vous dirait non. Tout de suite. Hein, parce qu'il voudrait être plus formel que saint Thomas. La scolastique a voulu être plus formel que saint Thomas. Alors elle est tombée dans le panneau. Et là, dans saint Thomas, il y a une souplesse extraordinaire. Hein. C'est vrai, fait qu'il y a deux choses, en vrai. Les processions divines sont cause de la création. Ça va loin. Deuxième objection. En outre, les personnes divines ne se distinguent l'une de l'autre que par leur procession et leur relation. Quand donc on attribue diversement quelque chose aux personnes divines, aux diverses personnes divines, c'est que cela leur appartient en raison de leur procession et leur relation. Or, la causalité divine à l'égard des créatures est ainsi attribuée diversement aux diverses personnes. Car, dans le symbole de la foi, on attribue au Père d'être créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Au Fils, on dit que par lui tout a été fait. À l'Esprit-Saint, on assigne le rôle de maître et de la source vivifiante. C'est donc que la causalité à l'égard des créatures appartient aux personnes en raison de leur procession et relation. Vous voyez les attributions là, hein? Alors, sans doute, la nature divine est commune aux trois personnes, mais elle leur appartient dans un certain ordre. Natura divina licet communis sit tribus personis. Ordine tamen quodam eis convenit. Donc selon un certain ordre. Car le Fils la reçoit du Père et le Saint-Esprit de tous deux. De même donc, la vertu créatrice, bien que commune aux trois personnes, leur convient dans un certain ordre, c'est-à-dire que le Fils la tient du Père et le Saint-Esprit de l'un et de l'autre, en sorte que la qualité de créateur est attribuée au Père comme à celui qui ne reçoit pas son pouvoir créateur d'un autre. Du Fils, il est dit dans saint Jean que par lui tout a été fait, parce que tout en possédant le même pouvoir, il le tient d'un autre, car la proposition par a coutume d'indiquer une cause médiate, un principe qui a lui-même un principe. Quant à l'Esprit Saint, qui tient ce même pouvoir de tous deux, on lui attribue de gouverner en maître et de vivifier les créations du Père et du Fils. Aussi bien, il y a une raison générale de toute attribution tirée de la façon dont les attributs essentiels de la divinité sont appropriés aux trois personnes divines. Donc, il y a une raison générale de cette attribution. Ainsi qu'on l'a dit plus haut, on attribue au Père par appropriation. Alors ça, il faut être très attentif à l'appropriation. C'est une chose que les pères de l'Église ont aimé beaucoup et que saint Thomas, lui, prend dans sa somme théologique, dans la perspective d'une science théologique, en essayant de préciser exactement à quel niveau se situe l'appropriation. Et c'est ça qui est important à voir, hein. On attribue au Père par appropriation la puissance qui se manifeste surtout par la création. En raison de quoi on le dit créateur. Au Fils, on approprie la sagesse par laquelle opère l'agent intelligent. C'est pourquoi l'on dit du Fils que par lui toutes choses ont été faites. Enfin, au Saint-Esprit, on approprie la bonté, appropriator bonitas, à qui appartient le gouvernement conduisant les choses vers leur fin convenable. Et on lui attribue la vivification parce que la vie consiste en une sorte de mouvement interne et que le premier moteur des êtres est la fin ou le bien. C'est un très bel exemple de l'appropriation ici, classique dans saint Thomas, et très intéressant à voir exactement ce que ça veut dire l'appropriation. Vous voyez que saint Thomas met un parallèle entre les deux questions. Ça, c'est intéressant. Parce que ça permet de mieux saisir ce que c'est que l'appropriation.
Vous voyez, cause et raison.
Les processions sont rationnelles, raison et cause. Raison, c'est le point de vue formel, et cause, c'est le point de vue d'efficience. Et les processions divines impliquent les deux. Et alors, à partir de là, il va pouvoir y avoir une appropriation par rapport aux créatures. Un lien particulier. Ce lien particulier, c'est de faire que, pour nous, comprenons bien, c'est pour nous les appropriations, c'est d'essayer de rattacher à telle ou telle personne telle ou telle qualité particulière, attribut particulier, qui nous semble être plus proche ou plus propre à telle personne qu'à telle autre. La sagesse est appropriée au Fils. La toute-puissance est appropriée au Père. Le Fils a la même toute-puissance que le Père, et l'Esprit-Saint aussi, mais est approprié au Père. Pourquoi ? À cause de l'ordre. C'est ce que dit, souligne saint Thomas, à cause de l'ordre. C'est l'ordre qui permet de comprendre comment le Fils a la toute-puissance du Père, mais il a une toute-puissance reçue, alors que le Père a une toute-puissance non reçue. Et c'est la même. Alors, si on veut montrer quelque chose de premier, c'est au Père qu'on a pensé. Parce que le Père a justement cette qualité particulière, selon l'ordre, d'être premier, d'être source. Si on veut manifester quelque chose qui est à la fois principe et en même temps effet, du moins effet, quelque chose qui est second, on l'approprie au Fils. Et alors, à l'Esprit, c'est ça plus délicat, les appropriations à l'Esprit Saint sont plus délicates. Donc, au Fils, c'est plus facile. Au Père et au Fils, ça va. Au Saint-Esprit, on approprie la bonté à qui appartient le gouvernement conduisant les choses vers leur fin convenable. C'est l'aspect de la finalité. Source, médiation, finalité. On approprie la bonté à qui appartient le gouvernement conduisant les choses vers leur fin convenable. On lui attribue la vivification parce que la vie consiste en une sorte de mouvement interne et que le premier moteur des êtres est la fin et le bien. Donc vous voyez, ces deux aspects se tiennent, raison et cause, et le point de vue de l'appropriation. Alors, il faudrait regarder exactement ce que signifie l'appropriation au point de vue de notre connaissance par rapport à la très sainte Trinité. C'est du côté de notre connaissance. Enfin, c'est du côté de notre connaissance. C'est notre manière de voir comment, dans les effets de la créature, il y a certains effets qui nous apparaissent comme plus proches de telle ou telle personne. Et le fondement de l'appropriation, c'est parce que les processions sont raison et cause. Comment ça ne pourrait pas ? Oui ? Justement, c'est ça la difficulté. Elles sont raison et cause, c'est parce que, de fait, elles sont raison, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Elles sont cause, c'est la même chose. Ici, raison et cause sont pris de la même façon, parce que c'est du côté de la causalité. Alors, si c'est raison de la causalité, elles sont causes. Comment elles ne seraient pas raison de la causalité ? Oui. Et elles sont causes parce qu'elles sont impliquées dans la sagesse de Dieu. Ah non, ça, il ne faut pas regarder qu'aux exemplaires. Si vous regardez qu'aux exemplaires, vous êtes quelque chose de plus particulier. C'est cause. Ça ne demande pas qu'aux exemplaires, il dit cause. Quoi ? Cause, donc c'est cause efficiente. C'est raison et cause. Vous ne pouvez pas séparer, là. Vous êtes dans la causalité créatrice. Dans la causalité créatrice. La causalité créatrice implique l'efficience, la causalité exemplaire, la causalité finale. Alors, vous pourrez dire, la causalité efficiente est plus appropriée au Père, la causalité exemplaire est plus appropriée au Fils, la causalité finale est plus appropriée à l'Esprit Saint. Très bien, point de vue appropriation. Mais toutes les trois, cause et raison, autrement vous ne pourriez pas avoir les appropriations. c'est pour ça l'intérêt de cet article est très intéressant pour l'appropriation, parce qu'il nous donne la clé. Tandis que dans le traité de la Très Sainte Trinité, vous voyez avant tout, dans la perspective de la Très Sainte Trinité, c'est beaucoup plus difficile parce que vous êtes pris par le point de vue de procession. Or, les appropriations, je crois qu'on peut dire que les appropriations, c'est justement quelque chose beaucoup plus synthétique. C'est pas du côté de l'analyse. Les processions sont du côté de l'analyse. Tandis que dans les appropriations, c'est le côté synthèse, c'est-à-dire l'analyse de la simplicité, l'analyse de la Trinité, des trois personnes, et l'unité réelle qui existe en eux dans la création. Et alors à ce moment-là, il y a un reflet des trois personnes, un reflet des appropriations, un reflet des trois personnes, vous voyez, à travers toutes les réalités. Et vous pouvez approprier au Père telle qualité, au Fils tel autre et à l'Esprit Saint tel autre. Oui. À cause du concept. Le Fils est celui qui procède du Père comme. Vous voyez ? Alors c'est à cause de ça. C'est que la causalité exemplaire est toujours un aspect du concept, vous voyez, de l'idée. Et le Fils est idée. Donc c'est la causalité exemplaire. C'est très très curieux. C'est intéressant de voir que c'est très difficile l'appropriation. Les mystiques l'emploient. Les pères de l'Église l'emploient. On sent très bien que dans la théologie scientifique de saint Thomas, il faut la situer, mais comme c'est difficile. On comprend très bien comment les mystiques l'emploient, parce qu'eux sont toujours dans l'aspect synthétique, synthèse, si j'ose dire, dans l'aspect de l'unité, de la trinité de Dieu. Ils ne s'en encombrent pas. Alors, ils parlent des appropriations, c'est très très simple. Mais dès que je suis au niveau de la théologie scientifique, je vois très bien que ça ne touche pas l'analyse. Or, la théologie scientifique est du côté de Dieu. C'est quelque chose qui brouille l'analyse. Et je dois les considérer. Je n'ai pas le droit de ne pas les considérer, les appropriations. On va prendre le dernier, puis on va. Il nous reste quelques minutes. Vous voyez ? Alors, voir la dernière objection. Si l'on dit la causalité à l'égard des créatures se réfère à un attribut essentiel, par conséquent commun, mais qui est approprié à l'une des personnes, cela ne semble pas suffire, car tout effet divin a pour cause indifféremment tout attribut essentiel, puissance, bonté, sagesse. Et ainsi, il n'y a pas plus de rapport à l'un qu'à l'autre. On ne devrait donc pas attribuer à une personne plutôt qu'à une autre tel ou tel mode déterminé de causalité, si ce n'est qu'elles se distinguent en créant selon leur relation et leur procession même. Très jolie comme objection. Hein ? Réponse. Il est très vrai que tout effet de Dieu procède de tous ses attributs. Donc c'est net. Vous allez dire causalité efficiente. Hein ? On va très bien venir, arriver. Quibus libet effectus dei procedat ex quolibet attributorum. Cependant, on ramène à chaque effet. Tamen reducitur. Hein, voyez bien le phénomène de l'appropriation. Reducitur. Donc, cependant, on ramène chaque effet à celui des attributs avec lequel il offre un rapport de convenance en raison de sa nature propre. Alors, tout est là. Tamen reducitur unus quisque effectus ad illud attributum cumque habet convenientiam secundum propriam rationem. Selon sa raison propre, il a une certaine convenance particulière. Selon sa raison propre, il a une certaine convenance particulière à tel ou tel attribut. Et c'est cela l'attribution. C'est ça l'appropriation. Et c'est du côté de la connaissance. C'est pour ça que le reducitur est très important. C'est du côté de la... Et même, vous voyez, une espèce d'aspect presque critique. Le reducitur, c'est toujours l'aspect critique. C'est donc l'intelligibilité. On sait très bien que du côté réel, ça regarde les trois. Du côté existentiel, ça regarde les trois. Mais du côté de la... C'est pour ça que je dis, quand je dis, vous voyez, synthétique, c'est vrai, mais synthèse du côté critique. C'est l'aspect reducitur. Ainsi, l'ordre établi entre les choses créées est rapporté à la sagesse. La justification de l'impie à la miséricorde et à la bonté qui se répand sur abondance. Quant à la création, qui est la production de la substance même des choses, elle se ramène à la puissance. Donc là encore, un jeu particulier de ce point de vue-là. On pourra revenir là-dessus la fois prochaine, si vous voulez, si vous avez des questions, parce que c'est une question importante à bien saisir.